mission continue dans le désert, d'ailleurs. Et puis, de fait, c'est quand même le quatrième épisode d'affilée où un film se passe tout ou partie dans cet espace, après Sirat, oui, et une bataille après l'autre. Enfin, il commence dans le désert, donc, mais de nuit, car c'est dans ce décor que roule une voiture. À l'intérieur, un homme, Ekbal, son épouse enceinte et leur très jeune fille. Rien de très anormal dans cette situation, a priori. Mais l'étrangeté surgit peu à peu. Une première fois, lorsque, sur cette route mal éclairée, le véhicule heurte quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un chien errant qui restera hors champ. Puis, lorsque la voiture tombe pour de bon en panne, quelques centaines de mètres plus loin. Puis, lorsque la famille trouve de l'aide auprès de deux travailleurs dans un petit entrepôt encore ouvert au milieu de ce nulle part. Telles sont les prémices de films d'horreur, hein, d'ailleurs, qui ouvrent un simple accident. On reconnaît la famille perdue, la nuit, le lieu inquiétant, l'aide inattendue. Pourtant, dans son dernier film, Jafar Panahi retourne très vite ses clichés, puisque le monstre, finalement, est celui avec lequel nous venons de passer ces 10 premières minutes. En effet, Vahid, un des deux employés de l'entrepôt, reconnaît le grincement de la prothèse d'Ekbal, qui est amputée d'une jambe, grincement qu'il a entendu dans les geôles du régime iranien où il accroupit et dont il porte encore les stigmates. Le sang de Vahid ne fait qu'un tour, il suit jusqu'à chez lui son ancien bourreau et l'enlève en pleine rue le lendemain matin dans le but de le tuer. Mais Vahid est un homme bon et ne peut s'empêcher de douter de l'identité exacte de l'homme qu'il a enlevé et à ce titre ne peut se résoudre à l'enterrer vivant comme il le projetait. Il prend alors la route pour rencontrer d'autres anciennes victimes d'Ekbal, parmi lesquelles une jeune femme à la veille de son mariage, une photographe ou encore un homme continuellement au bord de la crise de nerfs. On pourrait croire que l'Iran que filme Panahi dans un simple accident, c'est un pays post-Mola, du moins au début du film. Bon, on découvre plus tard que tel n'est pas le cas dans les faits, mais il n'en demeure pas moins que le film pose clairement la question de l'après, de la façon dont la société devra traiter les anciens bourreaux, du pardon et de la loi du talion, sur le mode de la fable, de la parabole, souvent comique, drôlatique en tout cas, avec des scènes frappantes visuellement. Telle cette jeune future mariée qui se promène dans sa belle robe à travers Téhéran et jusque dans le désert, ou bien une scène d'attente qui vire au Beckett, enfin du moins en apparence, avec une référence explicite à En attendant Godot. Mais alors que dire du film, à présent ? Il s'agit d'une forme très modeste, hein, j'avoue n'avoir jamais vu de film de Panahi autrement, donc si je vous dis que ça reprend d'autres éléments de ses précédentes œuvres, c'est parce que je l'ai lu ou entendu ici-là. Une forme très modeste qui oscille entre efficacité et redondance, entre puissance brute et artificialité parfois questionnable. Quant à la question de juger ou non de ce film, elle est évidemment délicate comme pour toutes sortes de cinéma clandestin, et on ne peut certes qu'admirer hein, la volonté de Panahi de continuer à faire des films, malgré l'interdiction d'en faire qui le frappe, malgré son emprisonnement, etc. Mais bon, par rapport à un film de l'ampleur des Graines du Figuier Sauvage, sorti l'année dernière, de Mohamed Rasoulof, dont on avait parlé longuement à cette tribune, celui-ci est peut-être plus petit, peut-être moins frappant, il a quelques défauts aussi, mais également de très bonnes idées sur lesquelles on va revenir, qui font de cette Palme d'Or un objet, comme toujours politiquement important, mais qui n'est peut-être pas trop appelé à rester en dehors de certaines scènes. Bon, on va quand même s'essayer à en parler, et je vais vous demander votre avis à chacune sur ce film, avant que, comme d'habitude, nous nous attardions en profondeur sur divers points. Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé de ce simple accident ?
J'ai beaucoup aimé. Le cinéma iranien me plaît souvent, donc en vérité, je m'attendais à aimer le film, et effectivement, c'est le cas. Même si je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est peut-être pas le film le plus marquant, c'est vrai. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce que sur le moment, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai été très prise dans l'histoire immédiatement. On se sent vraiment, emportée. Surtout que c'est un film dans lequel il y a quand même beaucoup de suspense, donc et jusqu'au dernier moment et on va de révélation en révélation sans que ça s'arrête. Donc c'est vrai que c'est très prenant. Ça m'a beaucoup plu. Donc le sujet est très fort, c'est sûr. C'est comme tu l'as dit, donc le rapport au bourreau, à la vengeance. Alors pas tant que ça au pardon en réalité, parce qu'il n'y a pas question de pardonner, mais juste au bourreau et à la vengeance. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était un bon moyen de voir Téhéran en vrai, assez loin des images les images auxquelles on a accès le plus souvent, donc qui sont soit des fantasmes, soit des images donc de manifestations qui nous parviennent surtout quand il y a des mobilisations et des soulèvements populaires. Là, c'était pas le cas, c'était parce que justement dans Les Graines du Figuier Sauvage, ça avait été des images plus de manifestations. Voilà, là c'est pas le cas, c'était un terrain du quotidien avec ses habitants et surtout actuel, vraiment de 2025 effectivement. Le film est très contemporain, donc ça m'a vachement plu. J'ai bien aimé l'aspect... Enfin, je trouve que le film travaille beaucoup avec beaucoup de symboles. Tous les, le, il y a donc ce groupe de personnages. Moi, je trouve qu'ils représentent des choses très différentes chacun, presque. Enfin, c'est presque des archétypes. Ils ont chacun une émotion particulièrement mise en avant. Et ça m'a plu. J'ai trouvé que ça marchait quand même pas mal. Il y a des références qui sont plus ou moins explicites, effectivement. Tu as parlé d'un intendant Godot, c'est vrai. Même, il y a une référence qui, pour moi, se rapproche un petit peu d'Anna Arendt, de la banalité du mal, parce qu'il y a toute une réflexion, justement, sur la participation des individus à un système. Et donc, toutes ces choses qui sont, certes, relativement explicites, m'ont plu. Malgré, leur aspect explicite, ça ne m'a pas spécialement dérangée. L'aspect de fable et de parabole, effectivement, je suis tout à fait d'accord, m'a plu aussi. Surtout que ça commence avec cette scène dans la nuit, effectivement, et moi, à titre personnel, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le bourreau qui soit filmé au début, donc ça a bien marché pour moi, pour le coup, la surprise, voilà. C'est vrai que la mise en scène reste assez simple, mais je trouve quand même qu'il y a un travail assez important sur le son et l'image, oui. Qui permet vachement de maintenir un certain suspense, et souvent de placer le spectateur dans la position des victimes, des arrestations, en fait. D'abord sur le son, avec la scène de fin sur laquelle j'espère qu'on reviendra, parce qu'il y a tout un travail du son sur la scène de fin qui, moi, m'a beaucoup interrogée, parce que je l'ai vu avec une amie, on n'a pas entendu la même chose, donc voilà, j'espère qu'on pourra en reparler. Et aussi avec, je dis que j'ai été très prise dans le film tout de suite, parce que ces 10 premières minutes, en plan très resserré, avec beaucoup de hors-champ, même ne serait-ce que l'éclairage, en fait, tout est très sombre, donc on voit rien. Ça, c'était très prenant dès le début. Et puis après, je vais rendre la parole, mais de façon plus générale, il y a quand même des moments de comédie qui sont appréciables, puisque le sujet reste lourd, mais on n'est pas maltraité en tant que spectateur, et je pense que c'était volontaire. Peut-être ce que j'ai moins aimé, mais disons qui m'a dérangé pour conclure, c'est que le film parle. Donc, ce qui m'a dérangé, mais que je trouve fonctionne bien plutôt. Voilà. Ce qui en soi n'est pas forcément un défaut du film, c'est que le film parle beaucoup. Il y a beaucoup de scènes de réunions, quoi. Voilà, et qui sont presque redondantes au bout d'un moment. Et donc, ce qui est assez dérangeant. Et ce qui est assez épuisant aussi. Et en réalité, je pense que c'est un très bon moyen de montrer justement le dilemme auquel se confrontaient les personnages. Oui. Donc ça, c'était en réalité pas mal.
Tout à fait. C'est ce qui fait même, en fait, qui devient en fait assez anti-Beckettien, en dépit qu'il s'y réfère, c'est qu'il explique pas mal. Juliette, toi, c'est quoi ton avis sur ce film de Jafar Panahi?
Moi, j'ai l'impression d'être moins emballée que toi, Clémence. C'est un film qui m'a plu. C'est un film que je trouve être un très bon film. Simplement, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont gâché mon expérience en tant que spectatrice. La première chose, c'est un détail et c'est que lié à moi, mais j'ai vu le film en avant-première, donc il y a quelques semaines, où il y avait simplement le topo du film qui était écrit sur l'écran avant que je le visionne, ce qui m'a un peu gâché le suspense du début, parce que moi je ne savais même pas de quoi ça parlait, et du coup déjà ce suspense de savoir pourquoi le personnage principal réagit de la sorte avec le son, qu'est-ce que ça lui évoque, ça m'a un peu gâché ça, alors que je pense que c'était quand même une partie importante de la mise en scène et de l'entrée dans le film. Et autre chose, c'était un film qui était beaucoup plus drôle que ce à quoi je m'attendais. Et en réalité, je pense que ça m'a un peu désemparée. Et donc, même si je trouvais que, évidemment, il y avait du suspense, je trouve que la mise en scène est brillante. Je trouve que les rebondissements sont très bien faits. Ça, vraiment, pour moi, il n'y a pas de question. Simplement, ça ne m'a pas emportée tant que ça. J'avais l'impression de rester un peu en surface, que ça traitait des sujets qui étaient importants, mais où je n'avais pas l'impression de ressentir toute l'intensité que j'étais censée ressentir. Notamment parce qu'il y a quand même une intensité qui est progressive, je trouve, dans ce film, avec un climax à la fin, qui est passé totalement à côté. Enfin, j'étais juste spectatrice de cette scène, je n'avais pas l'impression de ressentir l'émotion. Donc ça, je pense que ça m'a un peu pris au dépourvu. Et j'avais du mal à comprendre les pistes de réflexion qui étaient lancées. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'y reparler, mais j'ai vu un autre film de Jafar Panahi, Aucun ours, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Qui parle frontalement de l'impossibilité de filmer où Jafar Panahi est le personnage principal. Et pour le coup, là, j'avais l'impression qu'il se passait plus de choses niveau réflexion, que c'était plus intéressant, que c'était plus poussé. Là, j'ai encore quelques réserves. J'ai pas l'impression d'avoir été ni bouleversée émotionnellement, ni d'avoir tant appris, ni même réfléchi sur la situation. Mais quelque chose que j'ai aimé, par contre, c'est que j'ai l'impression que, évidemment, ça se situe. Tu parlais du fait qu'on observait un Téhéran qui était contemporain, de 2025. Mais en même temps, ce que je trouvais assez déstabilisant, c'est que même si on se situe dans l'Iran actuellement, on n'est pas vraiment, on se situe pas vraiment dans un régime, enfin dans le régime actuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, j'ai trouvé, évoqué. Et donc évidemment, enfin il y a des moments où on voit encore l'emprise du régime. Je ne sais pas si vous rappelez dans certains échanges où ils doivent, je sais pas, donner de l'argent à un mec pour voir un peu la corruption,
etc. À la fin, ils le disent clairement, mais c'est vrai que on a vraiment cette impression. Moi, je pensais au début qu'ils se projetaient dans une uchronie en fait, ou dans une utopie, enfin en tout cas un régime post-Mollah. Ouais, au début du film.
Et ce que ça, pour le coup, je trouvais être intéressant pour les pistes de réflexion que ça pouvait faire émerger. Donc par exemple, le lien au bureau, etc. Comment on construit une société iranienne après tous ces drames, sauf que pour moi ça restait au stade de l'ébauche de la réflexion et je trouvais que c'était pas suffisamment peut-être poussé.
Je suis tout à fait d'accord et je trouve que ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment bien aimé voir dans ce film et qui je pense aussi aurait fait son originalité, même par rapport à d'autres films, enfin de ce qu'on peut imaginer d'être le cinéma iranien, si on en parle de façon un peu générale. C'est-à-dire que là j'étais un peu gêné souvent dans ce film-ci par la façon dont il semble cocher des cases ou des attendus. Tu parlais de personnages qui sont quasiment des archétypes, et moi ça m'a vraiment frappé comme étant le cas. Et je dirais pas que ça m'a gêné, mais un petit peu quand même, un petit peu quand même en réalité. Et ce qui pose aussi, il y avait une camarade iranienne qui disait tout à l'heure qu'on perd pas mal aussi dans les sous-titres, et que les sous-titres ne retiennent que le message que le public français au fond attend de ce genre de film. Et ce qui l'amenait à questionner l'adresse de ce film, c'est-à-dire pour qui Panahil fait-il ? Le fait-il pour le public occidental ? Le fait-il pour les Iraniens ? Et en réalité, voilà, c'est ça qui... J'avais un peu l'impression d'un film tout prêt aussi, qui était réussi. Moi, je ne peux pas dire du tout que j'ai passé un mauvais moment devant, mais effectivement, je n'ai pas appris, je n'ai pas été bouleversé, je n'ai pas été ému. Je me souviens très bien, nouveau par rapport au Rasoulov, qui est le dernier film iranien en date que j'ai vu en salle, qui m'avait vraiment remué par des moments très forts. Bon, il était certes deux fois plus long, mais pas, dans celui-ci, les personnages, dans le film Dans un simple accident, les personnages sont tout d'une pièce, ils sont chacun donc un type à la fois comique, presque, façon comédia dell'arte.
Oui, on dirait un peu une troupe de théâtre.
Exactement.
Trouve, chacun a vraiment son rôle, apporte quelque chose à la dynamique.
Exactement, voilà, assez bouffon, et qui en même temps aussi, du coup, ont une... Donc non seulement il y a la troupe de théâtre, et il y a aussi le côté, une position à adopter face au régime, que ce soit la vengeance, le pardon, la collaboration, l'attentisme, la colère. Mais donc, ce qui, moi, c'est là que je vois ses limites, à titre personnel.
Oui, non, je comprends. C'est vrai, alors sur le pourquoi, enfin pour qui, pardon, le film est-il fait, c'est vrai que j'ai été très étonnée de voir que c'était le film qui allait représenter la France aux Oscars il est co-produit en France et toute la post-production était faite en France. Et effectivement, j'ai rarement été. C'est arrivé bien sûr avant aussi, mais je veux dire, c'était effectivement la question de la traduction et de ne pas comprendre la langue du film et être dépendante absolument, exclusivement sur les sous-titres était très frustrante parce que, on sait et on sent qu'on perd un peu forcément parce que les sous-titres sont toujours limités et puis il y a des choix de traduction, évidemment. Bon, je sais pas, j'ai pas envie de défendre le film.
Mais bien sûr, c'est le principe.
Non, mais par contre, c'est vrai que je... Alors, j'ai oublié quels étaient les autres films de la Palme d'Or, de la sélection, pardon, en compétition pour la Palme d'Or, mais...
Par exemple, Valeurs sentimentales.
Ouais,
Sirat.
Qui, moi, par exemple, m'a plus bouleversée en termes d'émotion que Jérémy. Alors que pourtant, plus léger, en vrai, comme...
Bien sûr. Mais non, mais c'est pas... Enfin, forcément, lié, surtout que, effectivement, celui-là... Et je pense, non seulement le fait que ce soit, si on le compare au Grain de Figuier, c'est vrai que non seulement il était plus long, mais ça se passait à un moment de l'histoire qui était quand même beaucoup plus tendu, puisque c'était en plein pendant les manifestations Femmes Vie Liberté, et c'était au sein d'une cellule familiale qui en plus était extrêmement partie prenante, puisque c'était avec un juge, si je me souviens bien. Et celui-là, au fond, a une part, enfin une plus grande légèreté, mais pour le coup, je pense que c'est parfaitement conscient, et surtout parce que, enfin, parce que justement, c'est un groupe, c'est pas une cellule familiale dont on sait à quel point elle peut être vite refermée sur elle-même.
Oui, c'est des inconnus complets, hein, ils se connaissent pas du tout les personnages du film.
Enfin,
dans Un simple accident.
Ou alors, s'ils se connaissent, c'est à la marge parce qu'ils ont été co-détenus, voilà. Ouais. Et donc, ce qui bien sûr resserre quand même le lien, mais effectivement, finalement, les plus proches, ça reste Goli, la jeune mariée, et la photographe dont j'ai oublié le prénom, qui elles sont relativement proches, mais ça reste effectivement, c'est pas une amitié ancienne, et les autres effectivement sont plutôt des inconnus, et donc effectivement ça bloque en quelque sorte la proximité, mais mon idée m'échappe, mais pardon, non, attendez, je vous rends le micro parce que là je vais pas retrouver.
mais enfin, je suis d'accord avec toi et je comprends ta volonté de défendre le film, simplement moi je reste un peu sur ma position, à savoir que j'ai l'impression que c'est quand même une palme qui a été attribuée pour des raisons politiques, enfin comme un comme un message donné qui, enfin, peut se tenir, hein, mais où s'il fallait donner une palme, pourquoi alors c'était pas sur le film que je trouve plus éminemment politique, à savoir Aucun ours, qui est un film de 2023, je crois, donc du coup de Jafar Pahani, puisque celui-là j'ai l'impression que, enfin, face à ce film, j'avais pas l'impression d'être face à un grand film, face à un film qui méritait une palme d'or. C'était un bon film et, enfin, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée. Bon, après, il est pas très long, mais voilà. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus pour féliciter tous les efforts de Jafar Pahani de faire cinéma malgré toutes les conditions dans lesquelles il vit et toute la censure et l'incarcération, etc., que vraiment récompenser le film en soi. Voilà.
Non, mais effectivement, et puis il y avait un peu, enfin, ce qu'on a beaucoup lu aussi au moment de la remise de la palme il y a quelques mois maintenant, de volonté justement de rattraper le fait que Rasoulof ne l'ait pas eu l'année dernière pour Les graines du figuier sauvage, et donc d'autant qu'en plus là, enfin, Juliette Binoche ayant déjà plusieurs fois manifesté son soutien au mouvement Femmes Vie Liberté en Iran, etc. Oui, il y avait un peu une félicitation, comme tu dis, globale de son travail, plus une espèce de prix d'honneur que pour ce film-ci en particulier, qui de fait, à nouveau, est un film, à mon avis, mineur, dans le plus bon sens du terme, hein, à mon sens, c'est pas une rapproche que je lui fais, mais disons qu'il n'a pas peut-être l'ampleur qu'on peut attendre d'une récompense pareille. Après, bon, j'avais pas du tout aimé Anora l'année dernière, et je comprends pas pourquoi il l'a eu. Donc, donc bon, après, ça c'est la question des récompenses.
Non, mais oui, oui, à l'inverse, effectivement, moi, pour le coup, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que je comprends aussi en quoi ça peut être une palme plus ou moins justifiée en l'occurrence. Mais voilà, ce que j'ai retrouvé, c'était ce que je pense que aussi le degré d'intensité et du coup à quel point le film est marquant ou pas, c'est non seulement que donc il est moins resserré sur quelques personnages, donc forcément ça dilue en quelque sorte, et en plus c'est vrai que c'était en ça que je comparais avec Les graines du figuier sauvage, c'est que c'est pas du tout dans un moment de tension du régime, et c'est après Femmes Vie Liberté, enfin le mouvement existe toujours, mais je veux dire c'est plus à l'acmé des mobilisations, c'est dans un moment qui est plus calme, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on oublie le régime, et ça moi en l'occurrence ça m'a plu aussi, le fait de, alors effectivement peut-être que c'est enfin je sais pas pour quel public, mais enfin peut-être que ça justement ça pourrait aussi plaire à un public iranien si le film pouvait être vu sur place, mais c'est que justement c'est pas exclusivement concentré sur le régime des mollahs, enfin c'est aussi la vie des gens après une incarcération qui essayent tous de se reconstruire, donc c'est enfin bien sûr difficile voire impossible d'en faire abstraction, et c'est pas ce qu'ils essaient de faire, mais c'était aussi concentré sur ce qu'est la vie après, justement sans pas fétichiser, mais sans se concentrer absolument sur justement la dictature en fait. Et donc c'était parce que parfois on peut oublier brièvement justement les gens qui vivent en se focalisant sur la dictature, ce qui est enfin normal et compréhensible, mais voilà, donc ça c'était pas mal, je pense.
Non, c'est vrai que c'est intéressant dans la mise en scène, la façon dont le quotidien vient s'immiscer et vient aussi se montrer à nous sous un jour qui n'est pas du tout misérabiliste, qu'on pouvait reprocher par exemple même au Rasoulof, auquel on compare pas mal depuis tout à l'heure, et qui en même temps aussi vient contraster avec toutes les images qu'on a eues d'Iran cette année, alors dans un contexte qui ne sont pas du tout les manifestations, mais qui est la guerre qu'Israël a menée en quelques jours, il y a déjà quelques mois là encore. Et donc le film est vraiment intéressant pour ça. Moi, je trouve qu'il y a des choses... Enfin, moi, j'aime d'ailleurs plus ce qui se passe presque à l'insu du film. Enfin, il y a des points de mise en scène sur lesquels on peut revenir, mais que ce qu'il tente de nous dire aussi. C'est-à-dire que pour revenir à nouveau, moi, sur le principal reproche, entre énormes guillemets, bien sûr, que je ferai au film, c'est la lourdeur de son propos par moment. C'est-à-dire que tu disais, Clémence, qu'il parle beaucoup. Ouais, il parle beaucoup et ils sont dans une... volonté de toujours tout expliquer qui me paraît effectivement parfois assez inutile. La mariée qui explique, enfin, y a des scènes qui du coup pourraient être plus fortes s'ils prenaient le temps du silence. Ouais. Notamment, je pense à donc, ces scènes dans le désert qui veulent faire très Beckettienne avec un arbre nu et des personnages autour qui ne savent pas exactement, qui attendent que Ekbal se réveille des somnifères qui lui ont été administrés. Et donc qui vraiment attendent comme les personnages de Beckett attendent Godot par exemple. Bon, et là je pense qu'il y aurait quelque chose de plus fort que forcément toujours surenchérir dans la parole avec des acteurs et des actrices qui jouent pas toujours très bien. D'ailleurs moi ça j'avoue pour le coup le jeu d'acteur m'a un peu gêné, notamment de Vahid. Enfin ça m'a sorti du film hein, par moment. Mmh. Et puis je pense aussi donc sur la lourdeur ou sur les gros sabots plutôt la question qui est assez belle, mais bon, de le passage à la nouvelle génération, c'est-à-dire que notamment, on a, enfin, à un moment dans le film, les personnages qui se connaissent pas, mais qui sont réunis pour donner la mort à quelqu'un, finalement permettent de
oui,
donner la vie.
Oui, je voulais en parler. Oui, aussi de cette scène de l'hôpital, ouais. Justement. Parce que, en fait, je l'ai trouvé assez intéressante ce moment. Enfin, comment dire, j'ai l'impression qu'il posait les questions qu'on évoquait un peu tout à l'heure de cette société iranienne post- drame post-trauma de comment reconstruire une vie avec les bourreaux, comment on coexiste avec eux et là on se situe dans un dilemme moral parce qu'ils ont voulu donc aider la femme de ce présumé bourreau en femme enceinte qui donc a fait un malaise pour l'accompagner à l'hôpital et donc pour moi ça donnait un peu les ébauches de ces réflexions là parce que enfin j'ai l'impression que le dilemme moral qui est quand même au centre de ce film c'est de pas donner la pareille. Enfin, de pas, assassiner et torturer celui qui nous
Est-ce
a traumatisés. Qu'on
fait œil pour œil, dent pour dent. Quoi. Voilà. C'est la loi du talion.
Et donc là, en ça, il dépasse totalement cette idée-là de loi du talion, puisqu'ils aident la femme du bourreau. Mais simplement, j'ai l'impression que des questions comme celle-ci, qui auraient pu être intéressantes, là, ça faisait un peu pérégrination. Et c'est un peu cette impression que j'ai eue d'une sorte de bande, donc cette troupe théâtrale qui va de point en point, où il arrive des péripéties. Et c'est ce sentiment un peu d'artificialité qui rejoint ce que tu disais à l'instant quand il se passe la parole et qu'on a l'impression, notamment dans le désert, lorsque la mariée exprime ce qu'elle a vécu de torture, etc., où on a vraiment l'impression que okay, c'est son moment de parler, qu'elle dit son histoire, comme ça on comprend mieux le personnage, etc. Et que en fait, cela me paraît un peu pas très fin comme manière de faire. Oui. Et que du coup, il reste un peu archétype en surface, même si on en apprend plus de leur passé.
Oui, je suis d'accord avec vous, hein. C'est juste que ça m'a pas dérangé parce que c'est très archétypal en effet. Il y a un côté artificiel dans toutes les toutes les aventures qui se passent effectivement. Alors pour le coup, donc deux choses, moi les aventures, pour moi elles relèvent vraiment des moments comiques du film effectivement et ils sont nombreux, donc il y a effectivement, ne serait-ce que le pitch de départ, c'est quand même assez incroyable. Enfin, un homme retrouve son bourreau par hasard et du coup, pouf, la femme l'emmène tout de suite. Ça se passe très rapidement, voilà. Après, c'est un couple de jeunes mariés qui est saisi la veille de leur mariage alors qu'ils sont entièrement en tenue de mariage parce que donc c'est les photos la veille, enfin voilà. Et donc qui sont embarqués là-dedans en étant littéralement, oui, enfin en costume de mariée, quoi. Tout ça, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ubuesque, quoi. C'est drôle, c'est parce que ça devient tellement, tellement fou. Et donc toutes les aventures, y compris la scène à l'hôpital, voilà. Pour moi, ça c'était comique au fond. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu tant de mal que ça à l'accepter. Et sur le côté archétypal, c'est vrai, je vous rejoins parfaitement. Mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que ça faisait pas. C'était archétypal, oui, mais ça faisait pas faux pour autant pour moi. Parce que je sais pas, mais dans de grosses engueulades qu'on a sans doute tous vécu au moins une fois. parfois il y a, on peut facilement, je trouve, adopter des positions qui sont un peu, enfin, on campe sur nos positions un peu de façon, pas artificielle, mais voilà, en poussant à l'extrême ça arrive à tout le monde de dire des choses qu'ils ne pensent pas ou d'avoir des positions un petit peu tranchées alors que la réalité est toujours plus nuancée. Et donc ça, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine vérité là-dedans, même si je reconnais parfaitement le caractère archétypal et l'artificialité du passage de parole à chaque fois, où effectivement, le côté très redondant vient aussi du fait que chacune des victimes, à un moment, raconte ce qui lui est arrivé en prison, puisque les autres l'ignorent effectivement. Donc tous, à un moment, soit en s'adressant directement au bourreau, soit en s'adressant au groupe en général, même la mariée, c'est plus en s'adressant à son futur époux. Donc,
lui n'a pas été.
Voilà, qui est le seul, absolument. Absolument. Qui
donc joue un rôle un peu attentiste.
Complètement, oui, complètement attentiste. Et d'ailleurs, dont les parents dont on comprend que les parents ont une position qui n'est pas directement de collaboration avec le régime, mais qui est quand même assez ambiguë, privilégiée, c'est ça, et qui aura à répondre à la suite quand le régime tombera, quoi. Donc moi, voilà, le côté artificiel et archétypal m'a pas dérangé parce que je trouvais qu'il y avait une certaine vérité là-dedans et que dans des scènes comme ça qui sont moi c'était quelque chose que j'avais peu vu au cinéma, que j'avais beaucoup vu au théâtre, des c'est pas du tout un huis clos, mais il y a quand même quelque chose où ils sont tous enfermés dans le dilemme et dans la
mais tu fais aussi des conditions de tournage du film,
oui,
c'est-à-dire que
absolument.
Je pense qu'effectivement il était plus simple de tourner enfermé à 5 dans le minivan
ou
en plein désert que effectivement dans la rue, ce qui donne encore à nouveau une valeur aux vignettes qu'on a un peu de la vie quotidienne dans une librairie ou dans une pharmacie. Maintenant, sur cette question de la parole, notamment, puisqu'on peut continuer là-dessus, moi j'ai vu plusieurs fois cette critique formulée à l'encontre de la scène quasi finale, qui est un long plan fixe sur le bourreau, voilà, et sur Iqbal, qui parle vraiment, et c'est très long, la scène elle fait au moins 10 minutes, ça c'est sûr, c'est un plan fixe, et donc Iqbal, il y a un moment, fait une palinodie, enfin un brusque changement d'avis qui peut paraître incongru, surtout dans le courant du flux de parole, etc. Il y a des personnes qui le reprochent comme solution de facilité dans le scénario, etc. Moi, il me semble qu'il ne faut pas le prendre au premier degré et que ça va dans le sens d'un personnage qui est un personnage caméléon, qui s'adapte au contexte, qui s'est adapté à l'idéologie de la République islamique d'Iran et qui s'adapte en l'occurrence à ses interlocuteurs et qui parvient en fait à s'en tirer comme ça à chaque fois, et de même que le régime lui-même parvient à s'en tirer comme ça. Je sais pas ce que vous sur cette scène-là ou sur ce point-là vous avez à dire.
Non, mais c'est vrai, et en plus la fin donne raison à ce que tu dis, puisque finalement c'est le personnage qui s'en tire. On parle bien du bro là.
Oui, tout à fait.
Oui, ok, j'étais pas sûre. Mais moi c'est vrai que cette scène, cette scène de l'arbre à la fin, qui est censée être une scène très intense, je l'ai vécue de manière encore plus artificielle que tout le reste, oui, de tout ce qu'on vient de dire. Mais j'aimerais nuancer quand même mon propos à la fin pour parler vraiment du dernier plan qui, pour le coup, lui m'a convaincue.
Ah oui, le dernier plan est exceptionnel.
Mais c'est vrai que cette scène de l'arbre où il est attaché est censée être la scène déchirante du film, où en plus, là, en termes de jeu d'acteur, on y va. Donc ça crie, ça chiale, enfin vraiment, ça, oui, ça donne tout. Et c'était le moment où, justement, je me sentis la moins émue du film. Encore quand j'étais, par exemple, dans la scène de l'hôpital, je suivais un peu ce qui se passait. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose,
il y avait
un entrain, une dynamique.
Qui sert de relais, oui, un peu émotionnel. Mais oui, vas-y.
Mais là, justement, cette scène, c'est vrai qu'elle m'a paru très artificielle et sans aucun sentiment ressenti. Mais c'est vrai que, du coup, je pense que ça va vraiment dans le sens de ton interprétation. À savoir d'un personnage qui s'adapte et peut-être, du coup, de manière lui-même artificielle, sans vraiment croire à cet aveu et à toutes les émotions qu'il essaye de mettre en avant. Donc je pense que j'aimerais bien ton interprétation, parce que je pense qu'elle valorise plus, oui, cette scène que comment je l'ai vécue.
Oui.
Mais je suis d'accord sur le fait que l'émotion est restée bloquée, ouais, pareil, à ce moment-là, alors que tu sens que le film veut absolument te
l'attirer, oui, oui,
et que tu n'y arrives pas. Vas-y, je t'en prie, Clémence.
Moi, j'étais quand même convaincue, en tout cas concentrée dans la scène, et je ne me sentais pas extérieure à ce qui se passait, effectivement. Mais j'étais très étonnée aussi de la résolution, en quelque sorte. Enfin, étonnée. Disons que, non, pas tant étonnée que j'avais du mal à y croire, parce que c'est vrai que j'ai attendu pendant longtemps que l'accident arrive, en me demandant si l'accident serait exclusivement le chien au début, ou si un autre accident allait arriver. Parce qu'effectivement, le film n'est pas très long, mais il y a cet aspect répétitif dont on a parlé, qui fait que comment sortir du dilemme. Et je me demandais vraiment comment est-ce qu'il allait sortir du dilemme. Et je me suis demandé ça assez tôt dans le film, alors même qu'encore une fois, il est pas très long. Et donc je pensais que sortir du dilemme serait, ce serait fait de façon accidentelle, en fait. Et que ça échapperait au contrôle des personnages. Et donc dans cette scène, je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose, hein, en fait. Et effectivement, en l'occurrence, il se passe pas parce que j'imaginais, en tout cas. Oui. Et donc j'ai été un peu surprise parce que ça, effectivement, ça semblait facile, mais pour le coup, je m'attendais à quelque chose de facile. Je voyais pas comment en sortir autrement. Ouais, c'est vrai que c'était un peu facile. Mais bon.
Non, mais cette scène était quand même assez intéressante aussi, pour le coup, moi, je trouve, en termes de mise en scène, pour le coup, alors même que on pourrait croire que c'est un long plan fixe et que ça n'avait pas beaucoup d'efforts. Donc, vraiment, il est assis de nuit, on voit son visage, mais on voit pas ses yeux qui sont bandés. Oui. La seule lumière qu'on a, en fait, ce sont les phares arrière de la voiture, donc c'est rouge,
bien rouge, sûr, on est déjà en enfer.
Dans la nuit bleue. Et puis, donc, on a ses anciennes victimes qui lui parlent, mais qui sont debout autour de lui, même si on voit jamais leur visage. En fait, on a cette question du hors-champ en fait, et de l'aveuglement qui revient pas mal dans le film,
oui.
Un peu aussi du fait de sa production clandestine, et aussi, je pense, quand même de choix de mise en scène, et on va pouvoir parler notamment de cette dernière scène aussi qui fait appel au hors-champ et tout. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au bout de donc bien 10 minutes de discussion, il y a brusquement, le cadre, il va se décaler vers la gauche, il va enfin se décentrer du bourreau, et en fait, c'est un mouvement de caméra qui est très petit, très subtil, et peut-être que c'est trop d'aller essayer de l'interpréter, mais comme là ça fait quand même 10 minutes que l'écran, le cadre n'a pas bougé, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à y voir, peut-être chercher un sens, je sais pas, mais quelque chose en tout cas qui signalerait la volonté d'enfin pouvoir passer à autre chose et qui ferait signe vers ce dont on parle aussi depuis le début de notre débat sur ce qu'il y a de plus intéressant dans le film, à savoir penser l'après, penser un peu comme une moralité aussi à la fable qu'on vient de voir. Et puis, puisqu'on parle de mise en scène et de hors-champ, Juliette, tu veux revenir peut-être sur ce... Donc là, on a essayé de spoiler aussi peu que possible.
Oui.
Je pense que pour le coup, ce dernier plan, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, il faut arrêter votre écoute ici.
Oui, en effet. Oui, moi, c'est vrai que le dernier plan... pour le coup, m'a saisi. Il m'a totalement convaincue. C'était le moment où, pour le coup, j'étais accrochée à mon siège. J'attendais le contre-champ, qui évidemment n'arrive pas. En fait, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit le personnage principal de dos, qui est en train de marcher, et qui s'arrête brusquement lorsqu'il entend le bruit de cette prothèse.
Le claudiquement, oui.
Voilà, exactement. Et donc, il se doute que son bourreau est derrière lui et l'a retrouvé, alors même qu'il a décidé de l'épargner dans la scène d'avant. Et donc, c'est saisissant comme moment, parce qu'on a l'impression d'avoir dépassé cette situation, d'une certaine manière, cette situation dramatique, puisque en finissant sur une note assez joviale, à savoir tout le monde est épargné, c'est bon, on passe à autre chose, on vit notre vie.
Ah non, pas du tout. Oh là là, moi, je l'ai pas du tout. Ah non,
j'ai eu un sentiment un peu de... Ok, maintenant, cette histoire est dans le passé,
oui.
Comment on vit après ça,
oui.
Et c'est quand même la dynamique que j'avais avec... même quand c'est un déménagement dans la fin qui fait
justement en fait
il est en train de partir de l'entrepôt visiblement où il était, où on l'a rencontré au début du film.
Voilà, moi ça m'a donné une idée de nouveau départ tout de suite, de quelque chose de nouveau qui s'enclenchait. Donc évidemment tout ça est arrêté quand on entend une nouvelle fois ce bruit. Et alors, pour en avoir parlé avec d'autres gens, d'autres personnes ont trouvé que c'était une fin assez facile. Moi, pas du tout, je m'y attendais pas. Je trouve que justement, cette mise en scène avec uniquement le bruit, parce que c'est le seul qui nous retient en haleine pendant tout le plan, qui est très long, où le personnage a arrêté de marcher, on voit même pas son visage. Pour le coup, ça, je trouve que ça tient en haleine et on revient à ce bruit du début qui a commencé tout et qui montre qu'en fait, on ne peut pas passer au-dessus. Genre, ce bruit est partout, il est en soi, il est autour de nous, il nous rattrape. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très réussi.
Eh bien, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi sur... Enfin, moi, j'ai l'impression que cette conclusion se veut optimiste, même avec le bruit, même à la fin, puisque... Mais là, alors là, au nouveau, on tombe sur... C'est exactement sur de l'interprétation et tout. Mais parce que j'ai l'impression que le bruit s'éloigne.
Oui, mais alors, à moi, pas du tout.
J'ai l'impression qu'il s'éloigne et que, voilà, le bourreau signale...
Mais je trouve pas ça positif.
Ben, moi, je trouve ça...
Ah, comme il l'aurait retrouvé et en fait ça arrive
juste
après.
Juste pour lui signaler qu'il sait qui il est, qu'il peut le retrouver, et qu'il ne va rien faire, notamment parce que donc, on peut en parler aussi, puisqu'on est dans la partie spoil, entre guillemets, puisque Vaïd et le groupe un peu de Brick et de Brock qu'on a vu, a sauvé la vie de son épouse, et a permis de donner naissance à son fils.
Oui.
Et je pense que Panahi veut peut-être nous dire que sur la base de ce lien-là familial qui a été sauvé par cette équipe un peu de bras cassés, quelque chose va pouvoir renaître après et que donc, disons que ça peut embrayer une forme de réconciliation peut-être. Mais voilà, moi c'est comme ça que je l'ai pris, c'est-à-dire que à la fois le geste d'un bourreau complètement affidé au régime qui donc ne peut pas s'empêcher d'aller lui dire « je sais que tu, qui tu es, que tu, mm-hmm. ce que tu m'as fait, que tu existes et je peux te retrouver. Et en même temps, moi, j'ai l'impression vraiment que le bruit s'estompe sur la fin du plan, mais peut-être est-ce que j'ai projeté des choses. Clément, soit toi aussi, tu as entendu qu'il
s'éloignait. Oui, moi j'ai entendu qu'il s'éloignait. Alors, bon, j'aime beaucoup cette interprétation, pour le coup. En fait, voilà, j'aime à la fois l'idée que finalement il s'éloigne et que le lien familial puisse sauver effectivement la vie du groupe. J'aime beaucoup. J'aime aussi.
Ce qui va dans le sens de la fable, qui a une résolution un peu facile, mais qui va un peu dans le sens aussi de cette parabole très familiale, très un peu tout ça.
Oui,
vas-y,
oui.
Je t'en prie.
Bah, donc j'aime bien cette interprétation-là. J'aime bien l'idée aussi que ça puisse éventuellement être simplement. Enfin, c'est pas exactement ce que tu disais, je sais, mais peut-être un mirage avec seulement. Est-ce que puisque effectivement, il n'y a jamais le contre-champ. Donc au fond, est-ce que le bourreau est vraiment là, ou est-ce que c'est le personnage principal qui. Croit entendre le bruit qui en réalité n'existe pas, parce qu'effectivement c'est un bruit qui est obsédant et qui pourra jamais oublier. Et ça, ce serait pas mal aussi, mais le problème c'est qu'en fait moi j'ai vraiment du mal à y croire, et c'est peut-être c'est très pessimiste, mais moi je pense que c'est juste un geste, disons, de compassion envers le spectateur, de ne pas imposer de fin brutale ou violente, de la même façon que dans tout le film, en réalité, il n'y a pas de scène de violence. Enfin, il y en a très peu. Enfin, je veux dire, il maltraite un petit peu le bourreau, effectivement, mais en réalité, il n'y a pas de...
Enfin, ils prennent quand même soin de lui, dans le doute où c'est pas le bourreau. Donc, mine de rien, il n'y a pas de violence directe, je trouve, même.
Oui,
mais le bourreau leur dit, à un moment, de toute façon, tu n'es pas... Enfin, tu peux pas me tuer. Tu as sauvé ma femme, tu pourras pas me tuer. Mmh. Et donc, il est assez conscient que il s'en tirera quand il est attaché à l'arbre et que c'est juste pas comment, mais
il sent bien que
Il sent bien que les eux n'ont pas ça en eux. Et de fait, je pense pas que Panahi avait envie de faire de ses personnages principaux des gens qui arriveraient à ce stade de.
Non, et c'est pour ça qu'au fond de moi, j'espérais l'accident. J'espérais qu'il le tue accidentellement, parce que pour moi, c'était la seule issue à leur propre survie. Parce que c'est vrai que même si c'est le personnage de. C'est le personnage d'Amid, celui qui est présenté tout de suite comme très colérique et très fou, c'est un de ceux qui le moins réussi à surmonter l'emprisonnement, et c'est celui qui insiste pour qu'il le tue. Et j'ai, en vérité, moi, enfin, je veux dire, je c'est pas du tout pour faire l'apologie de la violence, mais juste, j'ai été convaincue par son discours, parce que c'est vrai, lui, son argument, c'est, mais de toute façon, c'est trop tard, vous l'avez déjà enlevé, vous l'avez déjà drogué et assommé. Quoi que vous fassiez, si vous ne le tuez pas, il se retournera contre vous, il sait où vous travaillez, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez sauvé sa femme, vous avez, enfin, tout le monde a sorti les cartes bancaires pour payer la litanie de tous les.
Oui, c'est qui est un running gag assez drôle d'ailleurs, enfin, en même temps terrible, parce que les pots de vin à la base de la société, et en même temps ça devient
parce que c'est
gag...
une suspicion généralisée, et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est une interprétation très belle de penser que c'est justement une promesse d'espoir pour l'avenir, pas une réconciliation, mais disons un pacte de non-agression, on va dire.
C'est ça, il y a un peu de ça, effectivement, un peu un truc vicieux aussi, mais toi tu n'y crois pas.
Non, parce que, et ne serait-ce que dans les pots de vin, en fait, pour moi ça montre vraiment que c'est, alors bien sûr que c'est opportuniste, mais ne serait-ce que quand c'est le pompiste de la station essence, quand c'est l'infirmière, quand c'est donc des gens qui en réalité ont un pouvoir qui est minuscule, quand c'est les vigiles en plein désert, en fait ce sont effectivement pas des gens qui sont directement affiliés au régime, ce sont pas des mollahs, ce sont pas des gens qui ont un grand pouvoir, mais tous ont un pouvoir de nuisance éventuelle. Et donc le pompiste demande un pourboire parce que le sous-texte c'est je menace de dénoncer la mariée vomit, rien à voir, enfin de peur, et lui il pense qu'elle est enceinte, il dit les mariés ont mis le couvert avant. Moi je trouve que le pourboire qu'il demande c'est dans la menace de dénoncer un truc qui aurait commencé avant le mariage. L'infirmière, c'est pareil. Mais où est le père de cet enfant si vous n'êtes que l'oncle? C'est quoi cette femme enceinte qui arrive sans mari? Et c'est pour ça le pourboire, au fond. Donc, tout soit un pouvoir de nuisance qui, moi, m'empêche un peu de vraiment croire en une réconciliation possible ou idéale. Et je pense que si le film finit comme ça... J'ai entendu aussi qu'effectivement, le pas s'éloigne. Mais pour moi, c'est pas... parce qu'au fond, il s'éloigne, mais il pourrait très bien revenir plus armé. Voilà. Oui. Et c'est ça qui m'a saisi dès le tout début de cette séquence finale, où justement on voit effectivement Vaid qui commence à pacter. C'est pour moi, c'était une fuite, c'était pas un nouveau départ, c'était une fuite, parce que il effectivement ne pouvait pas tuer le bourreau, mais par contre comprenait qu'il fallait partir sinon il survivrait.
Mais ça, je crois, moi il me semble que ce départ était planifié au téléphone avec sa mère, qu'on voit dans la dernière scène, dans la première scène.
Il me semble
qu'il parle justement du fait que, enfin, il y a un projet, je sais pas de quoi, j'ai pas tout compris, mais il me semble que ce départ est prévu.
Ah bon, bah, effectivement, c'est pas une fuite. Donc, si c'est prévu, c'est pas. Ah, dommage. Mais ah oui, je suis passée à côté.
Mais ça montre aussi la force de ce film, en fait, le fait qu'on ait des débats sur les interprétations. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, Juliette, cette dernière scène, elle est vraiment très puissante, elle est glaçante. Et il y a un lien même. Enfin, je parlais des poncifs de films d'horreur qui ouvrent le truc. Et en fait, il y a un lien avec l'horrifique aussi dans ce travail sur le son. Que tu évoquais, Clémence, dans ton premier avis aussi. Parce qu'on entend donc ce bruit à deux reprises dans le film, puisque après, Iqbal est immobilisé et qu'on n'entend plus sa guibole, comme ils disent. Et ça m'a fait penser, moi, à un vidéo-essai de très bonne qualité de Léo Gallivert-Dallené, que je mettrai le lien en description, et qui interroge la question du bruit dans les films d'horreur, et qui se demande notamment si c'est le bruit lui-même qui est intrinsèquement terrifiant, ou bien si ça vient des souvenirs qu'on y associe lorsqu'on a vu le film. Et là, ça rejoint un peu ce que tu disais au tout début, Clémence, quand tu disais que le spectateur ou la spectatrice se retrouvait en position de victime. En fait, Panahi, en faisant durer le bruit grinçant de la prothèse, il pose cette question aussi de d'où vient qu'on ait peur ou qu'on soit mal à l'aise. Est-ce que ça vient de ce bruit qui est pénible, effectivement, juste de grincement de la prothèse, ou bien est-ce que ça vient de quelque chose de plus profond pour le personnage, donc de son traumatisme, et pour nous, de ce qu'on imagine être le traumatisme du personnage. Et ça crée vraiment cette ambiance particulière où notre sentiment, on pourrait même aller jusqu'à dire de terreur en tant que spectateur, il va naître en parallèle du ressurgissement du traumatisme de Vahid. Et ça, je trouve ça vraiment assez fort. Et c'est ce qui fait quand même que ce film n'est pas juste un film politiquement intéressant qui a eu la palme parce que c'était un film iranien de Jafar Panahi qui a été fait en clandestinité, mais voilà, qui fait partie de ces choses. Bon, le problème, c'est que je trouve qu'il ne tient pas ses idées assez fortes sur la durée, mais il est loin d'être inintéressant, et je pense qu'il faut quand même recommander d'aller le voir pour le coup, disais, pour aller voir aussi une image de l'Iran un peu, aussi qui soit autre que ce que nous, ce qu'on reçoit dans les flux d'images qu'on a tous les jours.
Le son est important. Il y a tellement de choses qui se passent hors champ, justement, et dont on n'a que, soit la description, soit justement le son. Et ça, c'est à nouveau, vous trouverez peut-être ça facile, mais c'était pour moi important pour faire comprendre aux spectateurs, y compris justement nous-mêmes, spectateurs occidentaux qui en sommes finalement très loin, ce qui se passe dans les prisons. Parce que quand tous décrivent à un moment ce qu'ils ont vécu, la récurrence, surtout que bien sûr, le traitement des hommes et des femmes n'est pas le même, et il y a des menaces qui sont différentes, mais par contre, quelque chose qui est récurrent, c'est l'absence de vision. Tous ont les yeux bandés et tous, on leur promet la mort sans qu'elle arrive. Mais du coup,
Et qui nous rend par le hors-champ en mettant nous dans cette position-là.
Exactement.
Mais à nouveau, je pense que du coup, là, c'est pour boucler la boucle un peu sur tout ça. Je trouve que du coup, quand c'est dommage qu'ils prennent le temps d'expliquer pour chaque personnage. Après, c'est important d'entendre le récit de ces tortures qui ont lieu dans les geôles du régime iranien aujourd'hui. Mais je pense qu'il y en a certaines qui auraient pu être donc manifestées par du silence. Et je pense, en comparaison un peu dans ce contexte non plus iranien mais irakien, et libanais d'ailleurs, surtout dans une pièce comme Incendie de Wajdi Mouawad. Il y a aussi beaucoup de, pour le coup, les tortures ne sont pas toutes décrites, et on en vient à les imaginer ou à les déduire à partir de surtout tout ce qui n'est pas dit.
Mais en termes de, juste pour finir sur ça aussi, de quand même l'intérêt de ce film qui était, j'ai l'impression, ce qui était central, c'était vraiment ce dilemme moral de quel lien on va entretenir avec le bourreau, un dilemme moral qui était censé être, je trouve, vertigineux. J'ai l'impression que c'était ça le but du film, que moi j'ai pas trop ressenti pour tous ces trucs d'artificialité dont on a parlé. Pour le coup, je trouve qu'Aucun ours, si vous voulez le voir, réalise très bien cela, parce que c'est un dilemme moral que je trouve beaucoup plus fin que celui du réalisateur lui-même, parce que toute la question du film est de savoir s'il va ou non franchir la frontière et donc partir en exil du pays. Et donc c'est pas des dilemmes avec des grands discours, etc. Au contraire, on suit juste la vie de ce réalisateur qui réalise à distance le film. Donc en plus, on a une meilleure vision, je trouve, de toutes les conditions du tournage qui sont celles de Jafar Panahi sur ses derniers films. Et avec des questions morales qui, je trouve, sont plus pointues, moins moralisatrices aussi, puisque moins fait grossièrement par cette parole, etc., parce que c'est moins explicité. Et du coup, pour le coup, je trouve que pour ces questions-là, ce film est beaucoup plus réussi. Peut-être qu'il est moins impressionnant, parce qu'il n'y a pas ces pérégrinations, parce qu'il n'y a pas tous ces personnages qui peuvent être drôles, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'il vaut le détour.
Merci beaucoup à toutes les deux. Le moment est venu des conseils. Clémence, quelle est ta recommandation pour la semaine?
Alors, c'est un autre film qui est sorti en 2024, donc il ne sera plus au cinéma, mais il est sans doute disponible en VOD. C'est Les Fantômes de Jonathan Millet, qui en réalité est un film assez similaire, puisque c'est l'histoire d'un professeur de poésie qui est syrien, émigré en France à Strasbourg, et qui rejoint donc ça, c'est un film qui se passe, enfin c'est très contemporain, c'est situé en 2024 aussi, et donc qui rejoint un groupe à Strasbourg, d'émigrés syriens, qui, et pas que d'ailleurs, qui traque les torsionnaires syriens justement en Europe, de la même façon que effectivement, Israël a pu traquer les nazis en Amérique du Sud par exemple, enfin Eichmann est l'exemple le plus connu, mais bon, pas que. Et donc voilà, il traque les torsionnaires syriens, et il retrouve son ancien bourreau, personnel entre guillemets qui est devenu étudiant en médecine, et c'est un film, donc le sujet est très similaire à celui d'Un simple accident, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui je pense restera plus marquant pour moi qu'Un simple accident, même si j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est Les Fantômes de Jonathan Millet, je le recommande chaleureusement. Pareil, il y a des procédés qui sont assez similaires, ne serait-ce que dans justement ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qui est hors champ, ce qui relève seulement de l'auditif et du son, voilà. Et donc c'est un contexte différent, c'est la Syrie et pas l'Iran, mais beaucoup de similitudes.
Merci beaucoup. Et Juliette, ton conseil?
Alors moi, une recommandation, je sais pas si c'est vraiment une recommandation, mais je pense que ça vaut le détour, c'est le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui vient de sortir, donc sur qui est une réalisatrice iranienne aussi, qui entretient donc une relation, enfin pas une relation à distance, mais qui appelle régulièrement une jeune femme de 24 ans qui est en Palestine, à Gaza, et pour donc qu'elle soit au courant de sa journée, de ce qui se passe, de comment elle va, de quels endroits sont bombardés, etc. Donc on a vraiment un suivi du quotidien de cette jeune femme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont questionnable aussi dans la manière dont c'est fait. Déjà, c'est très déstabilisant parce que le son est très mauvais, tout simplement parce qu'il n'y a pas de connexion. Oui. Donc en fait, c'est un dispositif marrant de la réalisatrice qui filme avec son téléphone, le téléphone qui appelle en FaceTime. Donc déjà, c'est un peu bizarre, on a vraiment l'impression de quelque chose très... pas pro, globalement. C'est un peu alternatif comme manière de faire. Et au-delà de ça, le son coupe en permanence. Enfin, c'est très étrange. Mais une fois qu'on est dedans, évidemment c'est prenant, je trouve qu'il y a aussi des questions de la réalisatrice qui est posée qui sont des fois très étranges, moi je questionne un peu la démarche de cette réalisatrice et de comment elle amène. Par contre, ça reste un documentaire absolument bouleversant, ouais. Je trouve mérite d'être vu.
Merci beaucoup, et je ne peux qu'aller dans ton sens. Quant à moi, je vous mets le lien du film dont j'ai parlé là sur les bruits dans l'horreur en description. Et puis, surtout, j'ai deux conseils. Une ressortie aujourd'hui, 15 octobre, du magnifique Une journée particulière de Ettore Scola avec Sofia Loren et Marcello Mastroianni, qui est un film absolument merveilleux. Vous allez pleurer, hein, a priori, sur donc une femme au foyer dans l'Italie fasciste qui se retrouve par hasard à passer une journée avec la seule autre personne restée dans l'immense immeuble désert en ce jour de fête donc où Mussolini reçoit Hitler à Rome. Cette autre personne, c'est un intellectuel homosexuel qui est joué par Mastroianni, et de cette rencontre va naître quelque chose de, bouleversant, mais vraiment une communion dans la solitude et une résistance à l'habitude. Vraiment, si vous pouvez le voir, allez-y. De surcroît, c'est tourné dans un sépia qui est vraiment très très beau. C'est très rare de voir des films en sépia, et je pense que sur grand écran, ça doit sincèrement en valoir la peine. Et puis enfin, petite recommandation champ libre, puisque Lucie n'est plus là pour les faire. Comme on a parlé de cinéma clandestin en cours de cette émission, et donc Jafar Panahi et son film Taxi Téhéran sont programmés en Cantor par champ libre d'ici à décembre. L'association de cinéma de l'ENS, donc Champ Libre, dans le cadre du cycle semestriel Film Clandestin, programme le 22 octobre prochain en Cantor à 20h le film Bullet Ballet, qu'on va montrer, du réalisateur japonais Shinya Tsukamoto, qui est un film inclassable, post-punk en noir et blanc, qui est tourné à la volée dans Tokyo au moment vraiment où à la fois le pays est en crise complète et en même temps il va dans une hyper-libéralisation forcenée. Donc, il explore des mécanismes de résistance et des marges à cette libéralisation-là. Et surtout, j'aurai le plaisir de donc être celui qui le présentera au début de la séance. Donc, on peut se donner rendez-vous le 22 octobre en Cantor à 20h. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à toutes les deux, merci. Juliette et Clémence, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du premier film en français, mais qui n'est pas un film français de la saison. Ce sera Nouvelle Vague. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.